Chers amis auditeurs, bonjour. Donc, je suis Denis Sureau, je remplace au débeauté Arnaud Guyot-Janin qui est bloqué chez lui, qui a été atteint par quelques microbes saisonniers. Mais je connais bien l'invité de ce jour, donc, qui est Hervé Elie Bokobza. Parce qu'effectivement, je l'avais invité il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et nous avions parlé à propos d'un de ses livres sur Israël-Palestine, qui était paru en 2008. Et Hervé Elie Bokobza a également été invité, je crois, il y a 2 ans, dans l'émission de Thierry Delcourt, pour parler d'un autre livre assez passionnant, Jésus et le messianisme à la lumière de la Torah. C'était un regard juif sur Jésus, un regard bienveillant, et c'était un fort volume, très riche. Et aujourd'hui, donc, nous allons déjà revenir un peu sur l'itinéraire d'Hervé Elie Bokobza, et puis aussi aborder un peu la question de quel regard un juif religieux au sens de théologien rabbinique peut avoir sur la situation israélienne, sur la question de l'État palestinien et autres sujets difficiles. Alors Hervé Elie Bokobza, bonjour.
Bonjour et pardon pour le léger retard. Bon.
Voilà. Alors, vous avez 59 ans, je crois que vous êtes né...
58 ans.
58 ans,
écoutez. On va me laisser encore ma dernière année avant de 59. Bon,
vous êtes né ici, il n'y a pas très loin d'ici, je crois,
à
Boulogne-Billancourt. Et vous avez commencé donc vous avez mené des études rabbiniques assez poussées. Vous pourriez un peu vous raconter cet itinéraire?
Alors, moi, je suis issu d'une famille d'origine... du nord de l'Afrique, qui sont, vous savez, les séfarades qui ont fait ce qu'on appelle qui ont été obligés de venir en France. Il y a eu des montées successives. Et mes parents sont arrivés en France 10 ans avant ma naissance. Et ensuite, on n'était pas dans un contexte très orthodoxe, très pratiquant. Mais j'ai rencontré, en fait, étant jeune, des courants juifs plutôt pratiquants. Depuis, j'ai fait des hautes études rabbiniques dans ce qu'on appelle des yeshivot, des instituts rabbiniques d'études juives approfondies, où on fait du Talmud, de la Bible, etc., avec les commentateurs. On apprend surtout à naviguer tout seul, on va dire. Et bon, j'ai pris un petit peu mes distances avec l'univers orthodoxe, mais je suis resté très, très attaché à l'univers de l'étude. Et j'ai pensé, à un moment donné dans ma vie, ouvrir ces perspectives vers l'universel, vers l'autre, hein, justement, d'où mon livre L'autre, qui est paru aussi il y a une dizaine d'années. Enfin, un peu plus d'une dizaine d'années. Et j'ai rencontré les amis chrétiens et je me suis engagé, c'est presque une mission de vie, on pourrait dire, dans le dialogue avec le monde chrétien, aussi le monde musulman, mais plus particulièrement le monde chrétien, parce qu'il y a des bases communes de dialogue qui sont indéniables. Et petit à petit, bon, on ne va pas parler de mon livre sur Jésus, mais j'ai découvert... réellement le fondement juif des évangiles et même des textes pauliniens. Et pendant des années, ça va peut-être faire rire un petit peu certains, j'ai enseigné Jésus au Collège des Bernardins.
Oui, tout à fait. Oui,
donc,
oui,
voilà,
oui.
Donc c'est assez étrange. Alors le Collège des Bernardins, on ne le présente plus, hein, c'est un prestigieux collège qui est ouvert au judaïsme, puisqu'il a été fondé par le regretté Jean-Marie Lustiger. D'ailleurs, je lui ai dédicacé mon livre. Et donc, je me suis engagé là-dedans. Et après, d'année en année, je me suis dit, il faut que je fasse un livre sur Jésus. Et quand je me suis senti prêt, alors je me suis lancé là-dedans. Et voilà, je continue cette perspective du dialogue judéo-chrétien. Et aussi, je suis absolument très, très engagé pour la paix. Donc, j'ai participé à énormément de rencontres à ce sujet, dont une qui s'est passée dernièrement à Caux. C'est un groupe qu'on appelle, une ONG qu'on appelle Initiative et Changement, peut-être que vous avez déjà entendu parler. Ils ont fait un très 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 grand forum sur le thème de Israël-Palestine et retour par la France, donc ils voulaient surtout avoir des avis de francophones. Donc je suis intervenu avec beaucoup d'amis, et je continue, voilà, à me battre avec mes faibles moyens sur la question.
Très bien. Alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément les différentes sensibilités à l'intérieur du judaïsme, est-ce que vous vous situez dans le courant du judaïsme dit libéral?
Alors, non, je vais peut-être vous décevoir, je suis ce qu'on pourrait appeler un électron libre. C'est-à-dire que je me situe au niveau de l'étude à partir de la méthode vraiment rabbinique, les fondements de la méthode rabbinique. J'ai une ouverture à la pensée universelle, je m'intéresse beaucoup à la philosophie pour créer des ponts, des liens. Et alors le judaïsme libéral est un judaïsme que je respecte énormément, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, mais je n'ai pas la même approche que eux, j'ai une approche assez différente, ce qui fait que je préfère rester libre penseur, on pourrait dire ça comme ça.
Alors oui, il y avait une chose qui m'avait étonné, je crois que je vous ai posé la question lorsque je vous avais reçu pour la première fois, je crois que dans le livre Israël-Palestine, vous précisiez que vous n'étiez pas pratiquant.
Oui, alors en fait, si vous voulez... Il y a un truc assez bizarre. Les juifs très pratiquants, on les appelle les orthodoxes, un peu comme les chrétiens orthodoxes, alors que l'orthodoxie, à mon avis, c'est une erreur sémantique, puisque l'orthodoxie, ça répond à la doxa, ce qui relève de la foi, et que le judaïsme orthodoxe ne se situe pas en divergence avec les autres courants du judaïsme sur la question de la foi, mais sur la question de la praxie, sur la question de la pratique. Autrement dit, le juif libéral, ou aussi les massortis, etc., avec des nuances énormes, hein, je ne vais pas rentrer dans les nuances, vont considérer que la modernité est passée par là et qu'il faut revoir la tradition à partir des nouvelles données en tenant compte de l'évolution du monde, par exemple sur la place de la femme, sur justement le rapport à l'autre, sur des questions même d'ordre politique et social. Alors que le judaïsme orthodoxe va considérer qu'il faut d'abord considérer d'abord les textes à l'origine, vivre cette doctrine. Après, dans le milieu orthodoxe même, il y a des différents niveaux, il y a ce qu'on pourrait appeler des orthodoxes très, très radicaux, on va dire ça comme ça, et d'autres qui sont plutôt, comme la moderne orthodoxie, qui sont plutôt ouverts, etc. Donc si vous voulez, une personne avisée, avertie, qui lit mes livres, peut se dire, non, on a affaire à quelqu'un qui, alors excusez-moi, les auditeurs, si je me mets en avant, mais c'est pour bien comprendre, on a affaire à quelqu'un qui connaît, il connaît son sujet, il connaît son dossier. Donc à partir de là, il peut imaginer que je fais partie de l'univers donc, de la praxie et que je suis conforme exactement aux règles que le monde orthodoxe vit. Et comme moi j'ai pris mes distances avec ça, par souci d'honnêteté, je vais vous dire, voilà, je reste attaché au texte, ce que je dis n'est pas influencé par une approche personnelle, même si j'ai un avis personnel sur les textes. Mais ça, c'est un deuxième plan. En premier plan, je les analyse d'abord tels qu'ils sont et tels qu'on les a compris dans l'univers rabbinique. Donc cette phrase voulait surtout amener ma part d'honnêteté dans le sujet. Ne pas qu'on m'imagine avec l'accoutrement de Rabbi Jacob, si on peut faire de l'humour sur Radio Courtoisie. Juste en lisant mon livre, parce que j'ai pas mis mes photos, et d'ailleurs je ne mettrai jamais mes photos sur mes ouvrages, mais voilà. Bon.
D'accord. C'est mais pour ça. Qu'est-ce qui vous éloigne de la pratique ou de la loi ? Alors, puisque bon, vous avez vraiment scruté les textes, c'est vrai, vu d'un regard extérieur, notre regard sur le judaïsme, c'est aussi un ensemble de gestes concrets, le Shabbat, etc.
Alors, si vous voulez, moi, j'ai eu une épreuve de vie qui a fait que j'ai dû m'éloigner de cet univers. Bon, les Juifs très pratiquants ne vont pas prendre la voiture le Shabbat, ils ne vont pas répondre au téléphone, ils vont justement aller à la synagogue assidûment. Ça n'est pas mon cas. Moi, j'habite une petite ville qui s'appelle Gisors. Je suis surtout allé là-bas pour me rapprocher de ma fille, qui avait très, très besoin que je sois là. Et donc, je me suis éloigné de l'univers de la communauté juive, on pourrait dire ça comme ça. Le mot communauté n'est pas très bon, mais bon, voilà, on est entre nous, on peut le dire. Et donc, si vous voulez, j'ai même pas la communauté autour de moi. J'ai l'univers des livres, et donc je me dis, la seule moyen de subsister, c'est de se situer en électron libre, ouvert au dialogue, évidemment, avec tous les courants, dès lors qu'on me rend l'appareil, que ça soit réciproque.
Oui, d'ailleurs, vous donnez beaucoup de conférences, vous enseignez, je crois que vous donnez aussi des cours via Internet, c'est ça ?
Alors, c'est pas vraiment des cours, j'appelle ça des causeries. C'est sur des thématiques. Il y a une chaîne YouTube, mais c'est pas une chaîne YouTube qui est monétisée, qui est faite pour attirer l'auditeur, c'est vraiment pour celui qui a envie. Donc si vous voulez, moi ce que je fais, c'est que j'aborde un thème et je fais ce qu'on appelle des playlists. Par exemple, vous avez près d'une cinquantaine de vidéos sur la création, vous avez alors bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si vous voulez, quand j'aborde un sujet, je fais des playlists. Il y a plus d'une trentaine sur ce qu'on appelle la Bible autrement, où je fais des liens entre la Bible, la philosophie, la littérature, des choses comme ça, sur pas mal de choses dans la Bible surprenantes. Les gens n'ont pas idée à quel point c'est riche. Et en ce moment, je travaille sur les bizarreries talmudiques. On traite de passages du Talmud qui sont assez bizarres et assez amusants et très mal compris par le profane, on pourrait dire. Et moi, j'essaye, voilà. Bon, il faut mettre un peu de légèreté aussi dans la réflexion. Donc, voilà ce que je fais en gros. J'ai quelques personnes qui se connectent sur Zoom, des fois deux, des fois trois, des fois plus, c'est pas le sujet. Moi, j'enregistre et après, tel quel, je publie sur YouTube pour que ces gens-là, ils aient envie de revoir un peu une autre fois, plus tard, le sujet, ça les intéresse, ils vont regarder. Mais c'est pas... Alors, si vous tapez... moi, je m'appelle Hervé Elie. Alors, vous pouvez taper mon nom directement sur Google et appuyer YouTube à côté, vous allez la trouver. Mais j'ai fait une contraction de mon nom. C'est comme ça que je me fais appeler sur Internet. Alors, il y a Hervé, c'est R-E-V, la lettre R-E-V. Ensuite, vous avez Elie, donc R-V-E-L-I-E. Donc, c'est une contraction. Et si vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver mes vidéos.
Très bien. Alors, en fait, vous avez publié un certain nombre de livres. Vous avez commencé par publier des livres proprement théologiques.
Alors, sur le Talmud, surtout. Sur le Talmud, sur les textes rabbiniques approfondis.
Donc, c'est des livres en hébreu
en hébreu, oui.
Vous avez publié plusieurs
Alors, j'en ai publié plusieurs. J'ai écrit beaucoup d'articles. Mais, c'est, encore une fois, c'est l'univers du monde orthodoxe. C'est l'univers du monde des yeshivot. C'est réservé à ceux qui ont vraiment envie d'aller plus loin. Et d'ailleurs, beaucoup d'éléments de ces ouvrages-là ont été repris dans mon livre sur Jésus, parce que il y a une nécessité, si on veut vraiment comprendre Jésus, de rentrer dans l'univers de pensée qu'à l'époque on appelait pharisienne, aujourd'hui on l'appelle plus comme ça. Et il faut savoir que il y avait des frictions à l'époque de Jésus dans l'univers pharisien, et que ce que Jésus dénonce sur les pharisiens, c'est parce qu'il y avait justement une séparation entre ceux qui étaient plutôt les partisans d'Hillel, vous avez entendu parler du grand Hillel, et ceux qui étaient plutôt les partisans de Shammai. Et les discours même très violents, je pense à Matthieu 23 par exemple, contre les pharisiens, sont tout à fait comparables à ces polémiques qu'il y avait à cette époque. Et pour ça et beaucoup d'autres raisons, j'ai compris que Jésus, en tous les cas au départ, dans son enseignement, il était de tendance shammaïte et pas hillélite. C'est-à-dire qu'il était plutôt quelqu'un qui voulait pas qu'on ouvre les portes, on va dire, de l'initiation, on va dire ça comme ça, pour que ce soit universel, à celui qui n'est pas préparé. Il y a une chose qui est surprenante chez Jésus pour les lecteurs des évangiles avisés. Vous allez vous apercevoir que Jésus, il va sauver la prostituée, il va sauver la femme adultère, tout le collecteur d'impôts, tous les gens qui sont éloignés, il va les rapprocher avec amour, avec beaucoup d'amour. Par contre, celui qui décide de devenir son disciple, là, il va être intransigeant. Il va être d'une sévérité extrême. Et ça, c'était l'attitude de Shammai, contrairement à celle de Hillel, qui, lui, ouvrait à tout le monde l'enseignement. Donc, il y avait, à cette époque, cette polémique. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est... je ne me rappelle même plus maintenant, c'était quoi votre dernière question, mais c'était pour vous.
Et Saint Paul, par exemple, Saint Paul se situait... était disciple plutôt d'Hillel, non ?
Non, il était disciple de Gamaliel, qui était un disciple de Gamaliel.
Ah oui, qui était disciple, voilà, Gamaliel, oui, d'accord.
Et d'ailleurs, Saint Paul est resté pharisien, et une chose qui est, tout ça, c'est abordé dans le livre, on ne va pas parler de Jésus, mais comme on en parle au moins juste quelques mots...
On peut en parler quand même,
voilà.
C'est interdit.
Ce qui est surprenant, c'est que la seule raison, le seul argument que lorsque Saint Paul est persécuté, Saint Paul apporte pour dire qu'il est pharisien, c'est parce qu'il dit « parce que je crois en la résurrection des morts ». Or, la résurrection des morts, seul le courant pharisien prenait cette doctrine. Ni les Sadducéens, les Esséniens, ils n'en parlaient pas. Et donc, ça veut dire que, en fait, le fondement de la tradition chrétienne, il est basé sur ce qui a fondé le pharisianisme, qui est la doctrine de la résurrection des morts. Donc c'est quelque chose d'assez saisissant de voir que Saint Paul, il était ouvert aux païens, il voulait trouver un compromis entre ceux qui pensaient qu'il fallait carrément les convertir. Alors convertir, pas dans le sens de repentir tel que l'entend le monde chrétien, mais changer de foi, on va dire. Alors que Saint Paul disait non, Dieu est le Dieu de toute l'humanité, il n'est pas seulement que le Dieu d'Israël. Et donc il faut qu'eux aussi puissent rejoindre le Dieu unique, sans pour autant garder le Shabbat, faire la circoncision et manger une nourriture spécifique, etc. Et quand on a cette grille de lecture, alors Saint Paul s'ouvre complètement différemment. Et on s'aperçoit qu'il est complètement interne à la pensée juive, mais il a... Alors, ce que moi je parle de ce qu'on appelle une théologie de l'équivalence, c'est un concept que j'ai inventé, que pour ne pas que le non-juif se sente lésé, alors il va valoriser la valeur du païen qui revient à Jésus pour créer une égalité avec le juif qui est né là-dedans. Voilà, en gros... Avec cette grille de lecture, on peut comprendre Saint Paul tout à fait autrement. Voilà, c'était la petite parenthèse de l'introduction.
Mais effectivement, j'ai été frappé dans votre livre sur Jésus, notamment sur l'analyse du Notre Père, qui est j'ai moi-même publié un certain nombre d'articles sur le Notre Père avant de vous lire. Et effectivement, j'ai été étonné de voir que quasiment tous les éléments du Notre Père étaient déjà présents dans la.
Alors, moi, je vais le dire un petit peu autrement, parce que Jésus, il est du 1er siècle. Les textes écrits, je le dis d'ailleurs dans l'introduction du livre, hein, les textes écrits juifs sont postérieurs même au christianisme. Ce qui fait qu'en réalité, il y a pour moi des va-et-vient. C'est-à-dire que le Notre Père de Jésus peut répondre à une tradition antérieure, mais peut aussi avoir... pu éclairer les juifs qui sont venus après dans leur compréhension de la prière ou de la compréhension des textes, etc. Il y a des choses qui sont tellement équivalentes que, vous voyez, par exemple, alors je vais parler de nos amis musulmans, parce que moi je suis ouvert à l'universel, il y a énormément de choses dans le Coran qu'on retrouve dans le judaïsme. Là, on peut dire, bon, le Coran a repris des éléments, je ne parle pas seulement de la Bible, je parle des éléments vraiment de la tradition rabbinique. Il a repris des éléments du judaïsme, et ce n'est pas une critique, c'est comme ça. Alors que pour la doctrine chrétienne, on ne peut pas le dire de cette façon-là. Sinon, c'est une contre-histoire. C'est de l'anachronisme. C'est-à-dire, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait un chemin commun au départ. Et c'est ce chemin commun. Après, il y a eu une séparation due à un malentendu, à mon avis. Mais alors, ça reste deux doctrines séparées. Hein. Je pense qu'il faut dialoguer, donc il faut respecter l'autre. Mais il faut bien comprendre que les origines se sont construites comme ça. Si on prend, parce que je citais tout à l'heure le Coran, vous avez une phrase que tout le monde cite au nom du Coran qu'on retrouve dans la Mishnah, donc ça remonte au 2e siècle de notre ère. C'est la phrase que tout le monde connaît, on la répète tout le temps par cœur. Qui tue une vie, tue l'humanité. Qui sauve une vie, sauve l'humanité. Or, pour ceux qui ouvriront un Coran, je crois que c'est la sourate 5, si mes souvenirs sont exacts, ils verront que c'est introduit par ces mots. C'est pour cette raison que nous avons dit à Israël, qui tue une vie, tue l'humanité. Donc l'auteur du Coran cite sa référence, et chose surprenante, c'est une phrase qu'on trouve nulle part dans toute la Bible, pas même dans le Nouveau Testament. C'est une phrase de la Mishnah. Donc vous voyez, là on dit, c'est clair et net, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu, d'un point de vue théologique, des influences de la scolastique musulmane dans la pensée juive, ça c'est vrai, mais c'est beaucoup plus tard, mais sur le Coran lui-même, en tant que corpus, les textes qui sont dedans, qu'on retrouve dans la tradition juive, on sait qu'ils viennent de l'origine de la tradition juive. Par contre, les textes qu'on a dans les évangiles, et même dans les textes de Paul, sont tellement à une époque proche de la tradition qu'on est obligé de dire qu'il y a eu des va-et-vient, il y a eu des influences, et voilà.
Pour revenir sur le Coran, il y a aussi dans le Coran des éléments qui viennent du christianisme, évidemment.
Bien sûr, justement, mais c'est parce que c'est plus tardif, évidemment.
Voilà. Donc, oui. Alors, je disais, vous avez publié plusieurs livres, Israël-Palestine, un autre livre qui s'appelle L'Autre, un autre livre de la violence juive.
Qui est ici, là.
Voilà. Comment ont été reçus ces livres à la fois par les juifs et par les chrétiens?
Alors, moi, j'ai fait beaucoup de conférences sur la question de la violence dans le monde chrétien, ou dans les amitiés judéo-chrétiennes, puisque je suis souvent invité dans les cas d'amitiés judéo-chrétiennes, et aussi dans des cercles de libres penseurs. Dans le monde juif, j'ai été, à mon avis, ignoré. Voilà, personne ne parle, alors que je pense que c'est quand même très important. On va aborder certains éléments, puisque... Alors, dans le livre Israël-Palestine, je traite spécifiquement de la question de la paix avec les Palestiniens, Israël et Palestine. Dans De la violence juive, je parle plus principalement de la violence des textes, comment composer avec ça. Je dis en introduction de ce livre De la violence juive que je pense qu'après qu'il y a eu, parce que c'est, j'ai écrit ça après la vague d'attentats islamistes, pardon, qu'il y a eu, je reste politiquement correct, on va dire, qu'il y a eu dans en France et à travers le monde, et par rapport justement à cette question, on a légitimé le crime au nom de Dieu. Et quel Dieu ? Alors, pour le profane, c'est le Dieu monothéiste. Donc, c'est-à-dire, c'est le Dieu, c'est le Père de Jésus pour les chrétiens, c'est Yahvé pour les juifs, et c'est Allah pour les musulmans, mais c'est un seul et unique Dieu. Hein. Ce sont trois grandes religions monothéistes d'abord. Donc, pour moi, il est de la responsabilité de théologiens, justement, juifs, chrétiens aussi, d'être partie prenante et de répondre à ce grave phénomène, parce que dans l'histoire, il faut le dire, il faut être honnête, on a fait la même chose au nom du même Dieu. Donc pourquoi ? Comment ? Mais dans ce livre de la violence juive, ma thèse va toucher une dérive fondamentale, presque essentielle, du judaïsme actuel, par rapport au lien avec la création de l'État d'Israël. On va y revenir. Oui. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement d'actualité aujourd'hui, dans ce que nous sommes en train de vivre. Donc, pour moi, de la violence juive, il est plus d'actualité sur la question actuelle. Israël-Palestine, c'est plus d'ordre général. C'était d'actualité à l'époque où je l'ai écrit, mais ça reste important d'ordre général. Ça parle spécifiquement de la paix israélo-palestinienne, alors que de la violence juive, ça parle dans un sens beaucoup plus global.
Général, oui. Très bien, alors je rappelle que vous écoutez le libre journal d'Arnaud Guyot-Janin, qui est remplacé aujourd'hui par Denis Sureau, et je reçois donc Hervé Elie Bokobza, qui est un théologien juif, auteur de nombreux livres, et nous allons parler maintenant plus spécifiquement de la question... Israël-Palestine, des conflits, quel regard notre invité peut avoir sur la politique israélienne, sur les événements dramatiques qui secouent la Palestine. Alors, il me semble qu'au départ de cela, il y a peut-être peut-être partir de votre analyse sur le sionisme originel, celui de Theodor Herzl, qu'on présente souvent comme une approche laïque de la question. Quel est votre regard sur le sionisme d'Herzl ?
La réponse risque d'être longue, donc on va la séparer en plusieurs parties, comme ça on va dialoguer, il ne faut pas que je sois le seul à discuter. Alors, tout d'abord, on va peut-être monter un petit peu plus en arrière et défaire ici une idée reçue tenace, y compris dans le monde juif, et qui pour moi, je qualifierais cette conception d'hérésie, alors pas hérésie au sens théologique du terme, mais d'hérésie dans le sens que ça colle pas du tout, c'est qu'on greffe le projet sioniste avec l'attente messianique juive du retour à Sion, tel que prédit dans tous les livres des prophètes et même dans les évangiles d'ailleurs. Il y a ici quelque chose qui est un vice de forme. En réalité, et je vais le dire de façon très apaisée, sans dire qui a raison et qui a tort, on reste neutre, que le sionisme, c'est en réalité l'antinomie du messianisme. Alors, déjà, cette phrase peut me faire mettre en prison, on va dire ça comme ça, pour aller vite, surtout avec les nouvelles lois un peu délirantes actuelles. Mais je vais expliquer ce que j'entends. En réalité, dans les courants juifs orthodoxe, là, je vous avais dit, il y avait une multitude de courants que j'ai beaucoup étudié, y compris même avant, etc. Les ouvrages sur la question vraiment rabbinique et très ardue, je les ai étudiés vraiment en profondeur. Il y a plusieurs visions des choses. Il y a ceux qui sont carrément antisionistes et qui pensent que seule la destruction d'Israël amènera la délivrance finale, amènera le messianisme, jusqu'à les partisans du Rav Kook, qui était un homme respectable, mais malheureusement il y a eu des dérives après, qui lui considéraient que c'est une étape possible de l'avènement messianique. Donc il faut encourager le projet sioniste, même si c'est un projet laïque.
C'est ce qu'on peut appeler le sionisme religieux.
Alors, ce terme, je le récuse, mais on va le prendre maintenant, parce qu'on va aller par étapes. Alors, pourquoi, donc, moi, je disais, donc, si je m'en tiens au courant le plus proche du sionisme, ceux, les partisans du Rav Kook, et d'autres aussi, d'autres grands maîtres qui sont tout à fait respectables, pourquoi je dis que c'est l'antinomie du messianisme? Parce que jamais aucun courant juif ne considère la création de l'État d'Israël comme une fin en soi. C'est une étape. Alors que le projet Herzl se contente d'un cadre politique. Donc une fois qu'on a dit ça, on comprend que c'est l'antinomie du messianisme. Parce que le messianisme considère que ou le Messie viendra lorsqu'il n'y aura plus de souveraineté politique aucune, ou le Messie viendra comme, pour paraphraser le Talmud de Jérusalem, qui a cette métaphore, comme le soleil qui se lève, il fait nuit, puis il fait de plus en plus jour. Donc il y a des petites étapes, et ces petites étapes vont de la création de l'État d'Israël à la finalité de l'histoire. On n'est pas ici dans le problème politique avec les Palestiniens.
Oui.
C'est un second plan. On est ici dans la conception, quel regard la théologie peut porter à cette question. À partir de là, non, même le Rav Kook ne veut pas être sioniste, au sens herzélien, c'est impossible. Maintenant, dans la Bible et dans toute la tradition, on a parlé du retour à Sion, on verra après, il y a ici un bémol énorme, mais je vais le dire plus tard, justement, que j'aborde dans mon livre de la violence juive, que l'attente messianique devait surtout, dans l'histoire, être passive. Il n'y avait pas des actes concrets à effectuer pour que le Messie vienne. Donc pour eux, le projet sioniste, c'était une rébellion contre la tradition juive qui considérait que le Messie doit venir par le désir divin. C'est un projet divin. La seule mission qui est donnée à l'homme, c'est de remplir sa mission en tant que juif, c'est prier Dieu, c'est se repentir et faire les bonnes actions. Et il n'y a pas du tout de velléité politique dans la conception juive.
Oui, alors, pour préciser un peu, là, j'ai sous les yeux un article assez intéressant d'Antoine Fleifer, qui est un théologien catholique, sur ces questions-là. Il explique que il y a une prudence théologique qui s'exprime dans la doctrine talmudique des trois serments, qui interdit au peuple juif de monter collectivement sur la terre par la force, de se rebeller contre les nations, et qui enjoint donc les nations à ne pas opprimer Israël de manière excessive. Ça vous paraît une bonne présentation
Mais si vous le voulez bien, comme les trois serments nécessitent une analyse un petit peu plus... Je vais juste y arriver un tout petit peu plus tard, mais j'ai introduit déjà cette notion, puisque c'est pour ça que j'ai dit, ça ne doit pas être mené par les armes, par la violence. Et y a un précédent dans l'histoire, un précédent qui est abondamment abordé dans les textes rabbiniques et qui est reconnu aussi historiquement, évidemment, c'est ce qu'on appelle la révolte de Bétar. Ça se passe entre 132 et 135. Alors là, les avis des historiens sont partagés. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule révolte ou plusieurs? D'un certain Ben Koziva ou Bar Korba, peut-être que vous avez entendu parler, celui qu'on a appelé le fils de l'étoile, qui avait été soutenu par un certain Rabbi Akiba. Finalement, ça s'est fini par un bain de sang. Ils ont voulu se rebeller contre Rome et ça s'est fini par un bain de sang, et finalement, ça a été, justement, le Talmud le dit après coup, a posteriori, parce que le Talmud a été écrit plus tard, ça a été une transgression des serments, justement, puisque les serments disent qu'il ne fallait pas provoquer les nations, qu'il ne fallait pas y retourner par les armes. Et si on veut remonter un petit peu plus haut, là aussi, c'est important de souligner, il y a encore un précédent, qui cette fois-ci est un précédent biblique, dans le livre de Jérémie, si vous lisez les chapitres, les versets à propos de la destruction du premier temple par Nabucodonosor, l'empereur perse, là vous verrez que si je ne disais pas que c'était dans le livre de Jérémie, on pourrait me dire que je suis antisioniste. C'est un texte qui dit, Jérémie fait parler Dieu, donc il parle au nom de Dieu, et il lui dit, c'est moi qui ai créé la terre, et j'ai donné cette terre à qui je le souhaite. Je vous l'avais donnée, et maintenant je décide de livrer cette terre à Nabucodonosor, et tout quiconque refusera de se soumettre à son joug sera puni par le glaive. Donc on a déjà l'exemple type de la réaction, entre guillemets, du monde juif dans un contexte où il y a une mainmise politique extérieure qui prend la main sur l'État. Mais je voudrais revenir, si possible, sur Theodor Herzl. Je reviens où... Donc, revenir sur Theodor Herzl. J'avais dit que c'était l'antinomie du sionisme. Maintenant, je voudrais définir c'est quoi le projet Herzl. En gros, je vais résumer le projet Herzl en une phrase. Herzl veut créer une sécularisation juive. Donc, la sécularisation, c'est un phénomène qui est né au XIXe siècle, où on a créé le concept de citoyenneté. C'est-à-dire qu'avant, la nation était représentée par la foi. La France était fille aînée de l'Église, donc était chrétienne, donc les Français étaient chrétiens. On tolérait les Juifs d'une façon très restrictive, mais s'ils ne se convertissaient pas, ils ne pouvaient pas avoir les mêmes droits que le peuple français originel. Ça a été vrai dans toute l'Europe. On pourrait dire que la sécularisation, c'est la fille aînée de la laïcité. Hein, c'est venu avant. À partir du moment où il y a eu la sécularisation, je renvoie les auditeurs à un livre qui est très célèbre d'ailleurs, de Hannah Arendt. C'est un livre en 3 volumes qui s'appelle « Les origines du totalitarisme ». Et le 3e volume, c'est « De l'antisémitisme », où Hannah Arendt dénonce le vice de forme dans l'énoncé même de la sécularisation, puisqu'il s'agissait de créer cette sécularisation pour introduire les Juifs dans la citoyenneté. Or, les Juifs, pour qu'ils puissent être introduits dans la citoyenneté, il fallait les reconnaître comme tels, ce que refusait de faire la sécularisation. Donc il y avait ce qu'on appelle une antinomie. Donc, concrètement, il y a eu, il faut aussi le dire, parce qu'on n'est pas là pour modifier l'histoire, un anti-judaïsme chrétien virulent dans l'histoire, qui a beaucoup évolué aujourd'hui, et heureusement. Mais il y a eu aussi, mais lorsqu'il y a eu la sécularisation, la conception du rapport aux Juifs a été modifiée, puisqu'il ne s'agissait plus d'accuser les Juifs de déicide ou d'accuser les Juifs d'être à part, mais il s'agissait au contraire de refuser que les Juifs intègrent la citoyenneté. Donc c'est là qu'on a fabriqué le terme antisémite, ce qui est très marrant par rapport à notre époque actuelle, c'est que ce sont les antisémites eux-mêmes qui se sont désignés antisémites. Alors c'est un terme un peu bizarre, mais ils se sont désignés antisémites, hein, la France juive, Drummond, etc. Et donc il y a eu l'affaire Dreyfus. Donc c'est dans ce contexte-là où l'affaire Dreyfus finalement a prouvé que c'était un crime antisémite et qu'il n'a pas été accusé parce qu'il y avait des soupçons contre lui, parce qu'on a trafiqué les preuves, mais qu'il a été mis en exil politique. Il a été condamné parce que juif. Et donc, il y a eu un dénouement beaucoup plus tard, même après, beaucoup plus tard, où on a réhabilité Dreyfus. Dreyfus se situe à la même époque que Herzl. Herzl constate, suite à l'affaire Dreyfus et d'autres actes antisémites, que ce ne sont pas les juifs qui ne veulent pas s'intégrer à la nation européenne, au sens large, mais c'est l'Europe qui ne veut pas l'intégration des Juifs. Or, la sécularisation étant inéluctable, puisque c'est le principe de nation qui naît au XIXe siècle, où tout le monde veut se créer en nation. Donc le peuple juif doit déplacer le paradigme de son identité, qui n'est plus une identité religieuse, mais qui va devenir une identité citoyenne. Et donc, pour lui, la création de l'État d'Israël, c'est le projet de la sécularisation juive. Donc c'est pour ça qu'il va dire, je cite dans mon livre, qu'il faut confiner les rabbins dans les synagogues, il faut une stricte séparation, peut-être même encore pire que celle que nous avons en France aujourd'hui, entre les églises, et donc les synagogues et l'État. Même les militaires, il faut les respecter pour le respect qui leur sont dus, mais il faut les laisser dans les casernes, ils n'ont pas à s'immiscer dans la politique. Alors moi, je dis souvent que force est de constater que le projet de l'État des Juifs initié par Herzl n'a jamais vu le jour, et que l'État d'Israël que nous avons aujourd'hui n'est pas celui que Herzl voulait.
Oui, donc c'est ça ma question, la création de l'État d'Israël en 1945
et 48.
N'était pas motivé justement par...
Alors, Herzl, c'est le point de départ, mais il y a eu d'autres courants. Ce que je veux dire, je vais avancer par étapes, on n'y est pas tout à fait encore. Ce que je dis là maintenant, c'est que Theodor Herzl avait une vision de l'État d'Israël, et c'est là que la confusion va se créer. Vous savez, faisons un peu de théologie. Au début de la Genèse, il y a un récit surprenant où Adam nomme les animaux. C'est un récit abondamment traité par le Midrash et par les textes rabbiniques, et c'est fabuleux. Alors, littéralement, j'aime pas trop ce terme de littéral, parce qu'il n'y a pas de littéral. Lire la Bible littéralement, c'est absurde. C'est comme lire l'annuaire téléphonique. C'est pas comme ça qu'on lit la Bible. Mais d'un point de vue de la structure de la Bible, pourquoi Dieu fait passer les animaux devant Adam? C'est parce qu'il cherche son féminin. Et il voit pas son féminin. Mais ça veut dire que Adam, le Midrash dit que c'est ce qui le distingue même des anges, parce que les anges ne sont pas nommés. On a le combat de l'ange avec Jacob, où c'est bien mis en avant. Je passe vite ce récit. Il y a l'idée que Adam, donc l'homme, sait nommer les choses. Et il y a une phrase amusante qu'on trouve dans les textes rabbiniques, qui dit « les mots de nos jours, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, sont comparables à une pièce de monnaie périmée. » Parce qu'on emploie des mots et on modifie catégoriquement leur sens. C'est assez saisissant, et même ça peut faire peur. Parce que qu'est-ce que c'est que le mot? C'est définir une chose. Et dès lors qu'on a défini la chose, alors on devient libre. Parce que la liberté, c'est quoi? C'est ce qui permet, en fait, de vivre une vie où toutes nos actions, là on va revenir à la philosophie kantienne, etc., n'entravent pas la liberté de l'autre. C'est pour ça que lorsqu'on dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, ce n'est pas une condition, une limitation de la liberté, c'est sa définition elle-même. La liberté ne peut pas te servir à l'aliénation de quiconque. Donc là c'est pareil. Une fois qu'on a nommé les choses, on reste dans la structure de sa définition. Si on dépasse la structure de sa définition, on s'aliène, et à terme, on crée une décadence. C'est un petit peu le problème d'aujourd'hui, où on n'est plus capable de définir les mots, et on utilise l'intelligence artificielle pour définir les occurrences, alors que les occurrences mises dans une phrase n'ont pas le même sens que quand elles sont isolées. Donc c'est des choses qui sont évidentes pour nous, lecteurs, mais qui ne le sont pas apparemment pour tout le monde. Donc je reviens à mon histoire. Pourquoi j'ai parlé de mots? Pourquoi j'ai introduit par le terme du mot? C'est quoi le rapport? Je ne vous ai pas perdu, amis auditeurs. C'est parce que nous parlons du juif. Qu'est-ce que c'est que le mot juif? C'est un mot qui est très difficile à définir. Est-ce que le mot juif, c'est comme le chrétien, celui qui appartient à une tradition religieuse, monothéiste, qui a fait ses preuves depuis des milliers d'années, ou juif, c'est un peuple, donc ouvert à une nation? Ce que fait Theodor Herzl, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le sionisme. Il dénature le prédicat juif de sa substance originelle, pour en faire une identité de nation. Autrement dit, le juif dans l'esprit de Herzlien, c'est l'israélien d'aujourd'hui. Donc si on prend un exemple d'un point de vue de Theodor Herzl, moi je ne suis pas juif, puisque je ne suis pas israélien. L'israélien, y compris non-juif d'un point de vue religieux, il l'est parce qu'il a un passeport israélien. Sauf que le problème, c'est que qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement. Donc là, j'en viens à 48. Il y a eu ce changement à cause de ce que Gershom Scholem appelle le péché originel de l'État d'Israël, le fait que Ben Gurion, qui est donc le premier président d'Israël, a... Ben Gurion, on va pas faire sa biographie maintenant, on n'a pas le temps, mais Ben Gurion, c'était un juif très lettré, très culturellement, très, très avancé, mais il était athée. Il ne croyait pas du tout en Dieu, il ne croyait pas en la foi. C'était un grand lecteur de la Bible, il avait une grande fascination pour ça, mais c'est tout. Et Theodor Herzl ne savait... Gershom Scholem... Je suis fatigué, j'ai fait de la route, excusez-moi. J'ai dit que Gershom Scholem appelle cela le péché originel, mais je parle de Ben Gurion. Ben Gurion a demandé à tous les penseurs juifs, et y compris les rabbins, il leur dit, je voudrais que vous m'apportiez la réponse à cette question. C'est quoi un juif ? Et tout le monde s'est mêlé. Tout le monde a apporté sa réflexion. Les plus grands philosophes, ils sont intervenus. Les plus grands rabbins, les plus connus de l'histoire de cette époque, sont intervenus. Ben Gurion n'a pas été convaincu par cette explication. Donc il a dit très bien, je ne sais pas ce que c'est qu'un juif. Nous ne pouvons pas raisonnablement produire une citoyenneté juive, puisque le juif, c'est surtout un rapport à la religion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la citoyenneté de la politique. Et donc on va transférer l'état civil au religieux. Ça a été la plus grave erreur qu'a commis l'État d'Israël. À partir du moment où il a fait ça, j'ai 30 secondes et je termine, à partir du moment où il a fait ça, le mot juif n'est plus dans le sens herzélien, donc il devient l'israélien maintenant, celui qui s'arroge le droit d'avoir la citoyenneté israélienne. Et donc le juif reste reconnu dans l'appareil de l'État, mais uniquement à partir d'une conception religieuse. Voilà, je m'arrête là et on poursuivra plus loin.
Faire une petite pause avec le Bobino.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, chers amis auditeurs, vous écoutez le journal d'Arnaud Guyot-Janin qui empêchait à demander à notre serviteur Denis Sureau donc d'animer cette émission avec mon invité Hervé Elibokobza. Nous parlons maintenant de ce regard que peut porter un juif sur le problème Israël-Palestine. Et nous en étions tout à l'heure à la création de l'État d'Israël avec cette inflexion qui a été donnée dès l'origine. Alors Hervé Elibokobza, oui. Est-ce que l'influence de, par exemple, de Rav Kook et de ce courant-là a joué un rôle dans cette inflexion de l'approche?
Alors, on va dire les choses de cette manière. Juste, pour dire, pour les auditeurs qui posent des questions, on n'a pas le temps de répondre à des questions qui ne sont pas du tout dans le sujet, et ça serait dommage de voilà. Bon, c'est pas que je refuse, parce que les questions qui sont intervenues là ne sont pas du tout liées au sujet. Donc je vais rester à notre sujet, et puis s'il y a des questions sur le sujet, je vais y répondre, quitte à ce qu'on fasse une autre émission un autre jour sur d'autres sujets, si ça intéresse les auditeurs. Donc je vais revenir sur ce que j'étais en train donc de dire. Le problème du juif. Dans les prophéties bibliques, vous avez des promesses qu'un jour, Dieu ramènera les exilés sur sa terre. On le dit tous les jours dans la prière, c'est un concept très important dans le judaïsme. Le problème ici, c'est qu'il y a deux confusions, j'ai envie de dire. Alors c'est comme ça, c'est un fait historique. Il y a deux confusions, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui sont à la même place, alors qu'en réalité, ils devraient être séparés. Alors, c'est une métaphore quand je dis séparés géographiquement, mais en tous les cas, séparés au moins dans l'idée. Il y a le juif, d'une part, qui, d'un point de vue sioniste, c'est une identification de la citoyenneté, d'un point de vue du sionisme originel. Hein. Et il y a, alors que d'un point de vue de la foi, le juif, c'est celui qui reconnaît la divinité, c'est celui qui vit sa foi, sa praxis, donc justement, religieuse. Mais il y a aussi autre chose. Il y a le lieu. Pour Théodore Herzl, c'est pas le lieu qui est important. Ça peut être n'importe quel endroit du monde. L'essentiel, c'est que les Juifs peuvent se séculariser. Hein, c'était le fameux problème de la question juive. Hein. Au fin fond de la Russie, on a voulu une tentative aussi de créer un État juif.
Bon, j'ai même lu que Hitler avait envisagé un moment de déporter les Juifs, je ne sais plus si c'était sur l'île Maurice ou...
Voilà, c'est ça, exactement.
Donc, bon.
Oui, parce que justement, le problème moderne de l'antisémitisme, c'est un problème de sécularisation. Donc après, il y a eu la solution finale, bien sûr. Alors, et donc, le problème, c'est que c'est arrivé au même endroit. Donc quand les Juifs sont venus, après la Shoah, des pays ashkénazes, donc des pays d'Europe, ashkénazes c'est l'Allemagne plus restrictivement, mais tous les Juifs qui viennent d'Europe, on les considère comme des ashkénazes. Alors que bizarrement, séfarade, ça veut dire l'Espagne. Mais on va surtout imaginer que tous les Juifs orientaux sont séfarades. Quand il y a eu ces aliotes successives, alias c'est au féminin, c'est au singulier, c'est toujours féminin aussi, mais c'est au singulier, alors que aliotes c'est au pluriel, ce qu'on appelle les montées. Bon, pourquoi, j'en sais rien. Dans la langue française, on a ce phénomène bizarre, je descends dans telle ville ou je monte dans telle ville, on ne sait pas pourquoi on a choisi descendre ou monter, mais enfin c'est comme ça. On monte, parce que soi-disant c'est une terre sainte, alors on va monter vers la sanctification.
Oui, Jésus dit montons à Jérusalem, parce qu'il est près de voilà. Jéricho, qui est à moins de 140 mètres sous les eaux, enfin du niveau ouais. des eaux, et Jérusalem est à 700 et quelques. Exactement. Donc effectivement, montons à Jérusalem, ça a un sens. Là,
voilà, c'est un sens matériel. Mais c'est aussi le sens spirituel de la montée. Donc, quand ils arrivent avec leurs baluchons, il faut les imaginer, ils ont dans leurs baluchons évidemment leur Bible, la Bible juive en l'occurrence, et ils se disent, mais c'est écrit là, c'est écrit qu'il y avait David, c'est écrit qu'il y a, dans telle ville, ils voient que ça décrit ce qu'ils connaissent déjà et qu'ils ont étudié dans les petites écoles. Donc effectivement, pour eux, il y a bien, d'un point de vue symbolique, alors humainement je comprends ça, hein, c'est juste qu'il y a eu une dérive, il faut limiter cette chose-là, d'un point de vue symbolique, il y a eu, c'est peut-être la réalisation des prophéties bibliques. Mais d'un point de vue théologique, c'est pas tenable, parce que d'un point de vue théologique, le retour se fait par le Messie, par la reconstruction du troisième temple qui est formellement interdit de reconstruire par nos propres mains, et toutes les tentatives dans l'histoire de vouloir le reconstruire se sont avérées complètement être un échec total, et pas uniquement parce que ça a été rendu impossible par les pouvoirs en place, mais parce que d'un point de vue de la loi rabbinique, les conditions, ce que j'explique dans mon livre de la violence juive, qui implique la construction du temple, ne pourront jamais, en l'état, être réunies. Je vais faire la parenthèse pour montrer que, à partir de là, il y a eu, et surtout après la guerre de Six Jours, où on a annexé, entre guillemets, les lieux qu'on appelle saints, en fait c'est une fausse appellation, à partir de ce moment-là, il y a eu une confusion, il y a eu un amalgame radical, le sionisme est devenu le cœur du judaïsme. Et moi, je dis souvent, pardon de me citer encore, je compare le judaïsme et le sionisme aux deux polarités de l'électricité. C'est quand ils se touchent qu'il y a explosion. Alors, je ne suis pas anti-sioniste au sens où on aimerait l'entendre, parce que je considère que si on s'en était tenu au projet de Herzl, et si on avait tenu compte de ceux qui étaient réellement en place et qu'on avait respecté les voisins, le sionisme aurait pu tout à fait cohabiter avec ceux qui étaient là, et en l'occurrence les Palestiniens d'aujourd'hui, alors que les dérives actuelles, et qui sont pas réellement récentes, hein, qui ont beaucoup d'années, mais qui sont maintenant qui ont intégré dans la conception politique actuelle, moderne, enfin actuelle, sont en réalité des dérives du sionisme. C'est, il faut le dire, il y a eu dans l'histoire, notamment une de mes plus grandes références dans ma réflexion, un certain Yeshayahu Leibovitch, qui était un très grand intellectuel israélien, qui est mort dans les années 90, qui n'a passé sa vie, il n'a eu de cesse à dénoncer les dérives de la politique israélienne à l'égard des Palestiniens, et qui considérait que la plus grave erreur d'Israël a été d'avoir annexé cette partie de Jérusalem après la guerre de six jours, et qu'il fallait maintenant établir un plan de paix, ce qui n'a jamais malheureusement encore eu lieu. Et cet homme-là se définissait sioniste. Donc je ne voudrais pas qu'on amalgame des gens qui ont conçu le sionisme d'une façon beaucoup plus apaisée, on pourrait dire, des dérives actuelles où, pour pouvoir avoir un discours de paix, il faut s'afficher anti-sioniste. En revanche, je me considère non-sioniste, tout simplement parce que je ne vois pas, de mon point de vue, de conception citoyenne de ma judéité. Je suis français, j'ai mes papiers sont français, je suis né en France. Bon, mes parents étaient de Tunisie, mais ils sont venus 10 ans avant ma naissance. C'est le seul pays qui m'a donné à vivre et qui m'a tout donné. J'ai, d'un point de vue de ma citoyenneté, je n'ai aucun rapport avec l'État d'Israël. En revanche, j'ai un rapport avec la tradition juive. Donc, du fait que je n'ai pas de lien de mon identité avec cet État-là, je ne peux pas me considérer sioniste, si je veux être honnête. Mais je comprends que certaines personnes aient cette tentation aussi longtemps que le respect que les autres sont aussi respectés.
Oui. C'est-à-dire, vous remettez toutefois pas en cause l'existence actuelle de l'État d'Israël.
Alors, là aussi, il faut mettre un bémol. Je ne remets pas en cause l'existence de l'État d'Israël aussi longtemps que l'État d'Israël reste dans un projet séculier. Un projet religieux soutenu par une foi dont les dérives sont délirantes, qui considère qu'il faut appliquer les lois des temps bibliques à l'égard de ce qu'on appelle les sept nations, pour ceux qui ont lu le livre de Josué, qui était là à l'époque où Josué a conquis cette terre, qui a été rendu caduque par le judaïsme rabbinique, mais tout à l'heure j'en toucherai un mot, parce que c'est le fondement même de ma réflexion, peut-être en conclusion. Là, je suis radicalement opposé. Mais lorsque l'État d'Israël cohabite et avec les minorités non-juives, dans une égalité de droit, et cohabite avec ceux qui sont dans les courants religieux et ceux qui ne le sont pas, j'ai aucune raison d'être contre l'existence de cet État. Aucune raison. On n'a pas rendu illégitime l'Allemagne après la montée du nazisme, la Russie après la montée du stalinisme, du bolchevisme, etc. Je ne vais pas refaire l'histoire. Ça ne remet pas en cause la légitimité d'un État, mais ça remet en cause sa structure politique. Et la structure politique actuelle de l'État d'Israël mène cet État, malheureusement, vers sa destruction.
Oui, parce qu'il y a une irrésistible évolution et radicalisation avec cette vision religieuse messianique qui justifie la colonisation de plus en plus violente d'ailleurs, et avec la complicité de l'État d'Israël. Donc c'est ça que vous contestez. En fait.
Bien sûr. Alors là, si on en revient au texte talmudique, puisque là, vous m'ouvrez la brèche pour aborder justement la question des serments. Je ne pense pas qu'on a le temps maintenant d'analyser les choses et d'articuler petit à petit les textes, mais je vais dire quelque chose qui est peut-être une bombe atomique, c'est pas politiquement correct de dire ça, mais bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu, à l'époque, alors je suis pas en train de dire que la Bible est un manuel d'histoire. En tout cas, dans la conscience des gens, ce sont des événements qu'on considère comme des événements historiques. C'est-à-dire que est-ce que Josué a vraiment existé? Est-ce que vraiment il y a eu la conquête de Jéricho? Tout ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est porteur de sens. Je vais faire une petite parenthèse avec affection. Ma fille, quand elle était petite, elle me disait « Papa, tu crois au déluge, la création du monde en six jours, tu crois à Adam et Ève, tout ça ?» Et moi, je lui disais, il y a dans les gazettes qu'on publie dans chaque village et dans les journaux, une rubrique qu'on appelle « Faits divers », qui nous raconte des faits réels. Tel jour, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et il y a un dicton amusant qui dit « Il n'y a pas plus vieux que le journal d'hier ». C'est-à-dire qu'il y a une date de péremption. Donc le récit factuel qui s'est bien passé, après quelques jours, on finit par l'oublier. Alors qu'il y a des œuvres, on peut prendre l'exemple des Misérables de Victor Hugo ou d'autres grandes œuvres littéraires, qui racontent une fiction, Mais la vérité dont ces œuvres sont porteuses est telle qu'elle va soulever des siècles entiers d'influence. Elle va influencer sur des siècles entiers. Donc moi, mon rapport à la vérité n'est pas factuel, ce que j'explique à ma fille quand elle était petite. Hein. Mmh. Il n'est pas factuel, il est ce qui est porteur de sens. Et pour moi, c'est plus important encore que savoir si réellement Abraham a existé, si réellement il y a eu un jour le déluge. Ce qui est intéressant, c'est comprendre pourquoi on a raconté ces récits dans une antiquité très ancienne et qu'est-ce que ça a pu apporter comme sens. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Si on prend l'histoire biblique, on va s'apercevoir, ça c'est mon livre de l'Évangile, j'aborde ça, qu'il n'existe pas de peuple juif, qui à l'époque s'appelait Israël, ou les Hébreux, on les appelait aussi les Hébreux. Cette notion d'identifier le juif par le terme de Yéhoudi, de juif, elle est beaucoup plus tardive. Donc, il n'y a pas, en fait, d'autre conception biblique qu'un cadre politique. Le cadre politique au sens ancien. C'est-à-dire qu'il faut une souveraineté, il faut une royauté, il faut un royaume. Donc, le peuple juif ne déroge pas à cette règle. Alors, j'utilise le mot juif pour aller vite, hein, parce que sinon on n'aura pas le temps. Ne déroge pas à cette règle. Le problème, c'est que l'histoire a dépassé le réel. Et que lorsqu'il y a eu, parce qu'en réalité, la souveraineté politique juive d'un point de vue biblique, elle a duré que très peu de temps. Donc, une fois que ça a été détruit, avec la destruction du premier temple et ce qu'on appelle l'exil de Babylone, Galout Bavel en hébreu, une fois que ça a été détruit, même lorsqu'ils sont revenus 70 ans plus tard par l'intermédiaire du roi Cyrus, je vais y revenir sur ça, il y a eu un retour que partiel. La majorité des Juifs sont restés en Babylonie. C'est pour ça que ça a donné naissance à la plus grand corpus littéraire juif après la Bible, qui est le Talmud de Babylone quand même. Il y a aussi le Talmud de Jérusalem qui est beaucoup moins connu. Donc, il y a, à partir de ce moment-là, à partir de ce déclin, la fin de la souveraineté politique, il y a une urgence de créer une identité juive qui va être capable de survivre à ce qu'on appelle la diaspora, ce qu'on appelle l'exil, le concept de galout. Et ça a été toute la fabrication du judaïsme rabbinique ancien. Ils ont tout fait pour parvenir à cela. Et Maïmonide, le grand Maïmonide qu'on ne présente plus, qui est du XIIe siècle, qui a écrit une œuvre phénoménal sur la législation rabbinique, se pose une question très simple. Il dit, qu'est-ce qui distingue la première montée à l'époque de Josué de la seconde montée à l'époque de Cyrus ? Voilà ce qu'il dit. Alors Cyrus, c'est le seul non-juif dans tout l'Ancien Testament, qui est quand même, on trouve ça dans Isaïe 45, qui est quand même appelé Messie, loin de Dieu. Le loin de Dieu, hein, pas loin Elohienne. Donc on voit ici quelque chose de très important. Ce personnage Cyrus est très important. En fait, ce que dit Maïmonide, c'est qu'il dit qu'il y a un principe, c'est un principe universel, qui est aussi dans la législation rabbinique, ça c'est ce que j'aborde dans Israël-Palestine, qui dit que tout roi qui conquiert un territoire, il peut l'annexer, ça devient à lui. Sinon, il n'y aurait pas eu de frontière. On peut poser une question d'ordre moral sur cette notion-là, mais c'est l'histoire. L'histoire a fait cela. Il n'y a pas eu de frontières sans les guerres, sans le sang versé. Donc il dit, il est normal que lorsque Josué conquiert cette terre qui appartenait aux sept nations avant, donc cette terre maintenant, elle appartient aux Hébreux, mais lorsqu'ils sont chassés par Nabucodonosor, la seconde conquête donc de Nabucodonosor, elle détruit la première. Donc il n'y a plus de conquête, donc il n'y a plus de terre d'Israël. Il va jusque-là. Il dit, mais quand ils sont revenus sur leur terre, ils n'ont pas utilisé les armes, ils n'ont pas utilisé la conquête. Ils sont revenus parce que le roi Cyrus, donc le Messie de Dieu, a autorisé les Juifs à revenir sur leur terre. Cette fois-ci, on peut les appeler les Juifs à ce moment-là. Et pourquoi il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il a reconnu l'antériorité juive sur ce territoire avant que Nabucodonosor détruise le premier temple. Donc, il dit Maïmonide, il ne le dit pas dans ces mots-là, mais c'est ce qu'il sous-entend, que la légitimité du retour sur cette terre des nations du monde fait que l'appartenance à cette terre dépasse le simple cadre d'une conquête. Elle devient beaucoup plus forte. Et de là, la législation rabbinique a déduit dans tous les textes, hein, je peux en citer des dizaines, mais on n'a pas le temps, qu'on a aboli à ce moment-là toute guerre de conquête de la terre d'Israël. Le seul retour légitime par la tradition ne peut se faire qu'avec la coordination du monde, comme c'était le cas à l'époque du roi Cyrus. Et c'est pour ça que même les courants juifs qui étaient contre la création de l'État d'Israël au départ, sauf les Satmar et les Netour et Karta, on va laisser ça maintenant, ils ont accepté, en fait, la création de l'État d'Israël parce qu'il y a eu le vote à l'ONU. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, les nations du monde veulent se... Il y a une petite histoire amusante que je vais raconter aux auditeurs avec un des plus grands maîtres du judaïsme orthodoxe du XXe siècle, qui est très connu, puisqu'on les croit souvent dans les rues parisiennes, qui était le rabbi de Lubavitch. Vous avez peut-être entendu parler de Lubavitch. Et lui, il avait une conception très contre la création de l'État d'Israël. Et un jour, un autre rabbi qui vivait en Israël, donc d'un autre courant chassidique qui s'appelle Sadi Gora, je le dis de mémoire, il a dit donc au rabbi Schneerson, là, de Lubavitch, qui est mort en 94, il lui dit, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent que la coordination du monde légitime la création de l'État d'Israël par rapport au serment, justement, que vous avez cité, qu'il ne faut pas monter en muraille. Et le rabbi Lubavitch a répondu une réponse rhétorique qui est assez amusante. Il a dit, je ne suis pas certain, ça se passe dans les années 80, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas certain que si les Nations Unies seraient amenées à refaire ce vote, si il serait encore majoritaire pour la création de l'État d'Israël. C'est assez amusant qu'il ait dit ça. Mais par contre, il considérait que l'État d'Israël était légitime pour garantir la sécurité des habitants, pour éviter justement qu'il y ait des crimes de guerre, etc. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a glissé dans une dérive où on a complètement occulté le génie, en fait, de cette fabrication rabbinique qui a permis un judaïsme fécond à travers les siècles, sans État et sans souveraineté politique, qui a créé cette immense tradition qu'on connaît peu et qu'on connaît mal, pour redevenir uniquement un cadre politique guerrier. Et on légitime, d'un point de vue religieux, c'est là que ça devient extrêmement préoccupant, l'annexion de territoires par les armes, alors que ça a été aboli avec la destruction du premier temple. C'est pas rien, quand même.
Et pourtant, oui, il y a dans toute l'administration israélienne et l'armée une montée en puissance de cette tendance que vous dénoncez.
Voilà.
Ce qui nous amène effectivement à la situation d'aujourd'hui. Alors, pour être terre à terre, ouais. si je puis dire, quelle serait votre vision, vous, par rapport notamment aux Palestiniens? Que devrait faire un bon juif par rapport aux Palestiniens?
Alors, je ne sais pas si je suis un bon juif. J'essaye d'être... D'être quelqu'un de bien, après on verra si ça s'accorde, pourquoi pas. La conscience est un préalable, y compris à l'accès à la compréhension religieuse, sinon ça donne libre cours à des élucubrations théologiques qui permettent tout et n'importe quoi. Justement, cette possibilité de tuer au nom de Dieu, par exemple. Je ferme la parenthèse pour revenir sur le sujet de cette cause, justement, palestinienne. Il y a ici quelque chose d'assez intriguant, c'est qu'on crée en fait des idéologies. Pour moi, il n'y a pas plus dangereux et plus aliénant que les idéologies. Ce qu'il faut, c'est réfléchir, c'est avoir la liberté des nuances, la liberté de savoir que pas tout est ou tout blanc ou tout noir. L'histoire vous dira que lorsqu'il y a eu la création de l'État d'Israël, il y avait un plan de partage qui a été refusé par les Arabes, et qu'ensuite, il y a eu toutes ces guerres pour qu'on veuille détruire l'État d'Israël, moi, je dis, je balaye ça d'un revers de main, pardon, si je suis assez péremptoire, en disant ceci, le peuple, c'est le plus grand oublié des guerres. Eux, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de nourrir leur famille, ils ont besoin d'éduquer leurs enfants. C'est de cela dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique, par des élucubrations historico-douteuses, qui était là avant. Ça n'a aucun sens. Donc pour moi, il y a ici un peuple qui ne vit pas avec les mêmes droits que le citoyen israélien. Et ça, c'est une tragédie. C'est quelque chose qui est non seulement nuisible pour eux, mais qui est nuisible aussi à ceux qui les oppressent. Autrement dit, l'État d'Israël, je vais le dire de cette façon-là, quand il y a eu la destruction du Second Temple, parce que le premier temple, c'était le début du déclin. Mais quand il y a la destruction du second temple avec Titus, Rome, on est vers l'an 70 de notre ère, il y avait un grand maître qui était l'élève de Hillel, qui s'appelait Yohanan ben Zakkai, qui est très, très cité abondamment dans la littérature, y compris parmi les historiens, qui a négocié avec Vespasien, je vais vite parce qu'on n'a pas le temps, il a négocié avec Vespasien de lui concéder, même s'il veut détruire Jérusalem et le Temple, c'est pas grave, il veut au moins qu'il lui concède la ville de Yavné. Vous avez peut-être entendu parler de cette fameuse ville mythologique presque, de Yavné, qui a construit le judaïsme rabbinique. Ce que Yohanan ben Zakkai voulait faire, c'est qu'il voulait créer un judaïsme qui pourrait survivre après la destruction du Temple, après la destruction de la souveraineté politique et du pouvoir politique. Moi, ce que j'explique dans le livre de la violence juive, c'est que cette destruction, elle a été anticipée par les sages eux-mêmes. Par exemple, la peine de mort. La peine de mort, elle a été abolie bien avant Badinter, elle a été abolie 40 ans avant la destruction du Temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y avait des dérives, et c'est aussi ce que j'explique dans c'est l'interprétation que je fais de la femme adultère dans les évangiles, où Jésus dénonce les dérives qu'il y avait sur des condamnations à tour de bras. Il y avait des condamnations à tour de bras. Et donc, ce qu'ont fait les rabbins, c'est qu'ils se sont dit, on va arrêter avec ça. Sauf que on peut pas arrêter avec ça, puisque la Torah dit qu'un criminel doit être tué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissoudre le grand Sanhédrin, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir politique le plus fort d'un point de vue juridique, à Jérusalem. Parce que la condition pour appliquer les sentences font qu'il faut qu'il y ait la fin du pouvoir politique, du pouvoir législatif, y compris du pouvoir législatif. Donc ils ont aboli ça. En abolissant ce truc-là, ils ont permis à ce que les Juifs cessent d'appliquer les sentences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne va plus faire du mal à quiconque, même s'il transgresse le Shabbat ou il commet un adultère, etc. Cette idée-là, elle a fondé un judaïsme qui peut se vivre parmi les nations. Donc on a créé un autre concept qu'on trouve dans le traité talmudique de Gittin, qui est un concept très important, fondamental, qui dit « Dina de Malchuta Dina ». La loi du pays dans lequel le juif il vit, alors je ne fais pas du mot à mot, mais c'est pour bien expliquer le contexte, a autant de valeur que la loi de la Torah. Et le juif a l'obligation de la respecter. S'il ne la respecte pas, il transgresse en fait la loi divine. Ce principe de Dina de Malchuta Dina ne vaut que parce qu'on a imaginé une possibilité pour les juifs de vivre en dehors de leur souveraineté politique. Ça, c'est un fait historique. Je fais une petite parenthèse, puisque je reviens à nos amis musulmans, c'est peut-être une des questions qu'on a justement avec l'islam, c'est sans critique politique, jamais, hein, je suis plutôt quelqu'un d'ouvert. L'islam n'a pas été pensé en dehors de ce contexte de souveraineté politique. Ce qui fait qu'il y a d'abord à régler le problème de la citoyenneté d'un musulman dans un pays qui n'est pas un pays musulman, justement, et dont son respect s'en fait de la loi. Donc les individus vont respecter la loi, ça, il n'y a pas de question. Mais il n'y a pas une doctrine qui a été construite de cette manière-là, alors que dans le judaïsme rabbinique, les origines de cette doctrine remontent au Talmud. Et je cite dans mon livre de la violence juive, un des plus grands classiques des auteurs du Moyen-Âge, qui était du XIIIe siècle, XIVe siècle, pardon, qui dit, XIIIe siècle, qui dit, regardez, c'est quand même fascinant, il faut rendre grâce à Dieu d'avoir suscité dans le cœur des sages d'Israël, des temps anciens, l'initiative d'abolir les sentences relatives aux châtiments corporels et aux affaires financières, et encore plus par le fait d'avoir annulé les condamnations à mort. Par nos grands péchés, nous avons entièrement perverti les voies de la Torah, ainsi que nos capacités à produire un jugement juste. Alors je saute et je dis, convaincu d'avoir trouvé sans le moindre doute la solution adéquate, ils finissent par admettre leurs erreurs, reconnaissant ainsi qu'ils auraient dû tenir des conclusions contraires à ce qu'ils ont conclu. Là, il parle des dérives d'interprétation à son époque, au Moyen-Âge. Et à la fin, il dit, or, il n'existe plus de pouvoir central et d'autorité en Israël pouvant nommer les juges. On trouve même en certains endroits des membres du tribunal rabbinique avec l'esprit si tordu et si déformé que si à Dieu ne plaise, on pratiquait encore de nos jours les sentences, chacun aurait le loisir d'appliquer les châtiments selon son bon vouloir, y compris en prenant des décisions contraires à la législation rabbinique. Autrement dit, on a fabriqué un judaïsme qui pourrait, je le dis de cette façon, je plaide pour un judaïsme irréductible aux aléas de l'histoire. Or, aujourd'hui, ce que je mets en garde dans ce livre, il y a un risque énorme. Quel est ce risque ? Que l'État d'Israël, tel qu'il est construit aujourd'hui, abolisse l'origine du judaïsme, puisque l'origine du judaïsme, c'est le judaïsme justement rabbinique, qui naît bien après la fabrication des évangiles, c'est pour bien montrer le contexte historique. Si on abolit ça, et que demain, par les guerres, par des problèmes excusez-moi, j'ai un mot au bout de la langue quand on compte le nombre des gens qu'il y a dans un peuple, pour savoir... Bon, ce mot va me revenir.
Un recensement,
voilà. Un problème, en fait, où tout d'un coup, cet État n'est plus majoritairement juive, et donc c'en est fini de cet État. Qu'est-ce qui pourra... Qui sera ce Yohanan ben Zakkai qui sera capable de sauver les murs pour faire perdurer l'existence juive. Donc en gros, il y a quelque chose qui dépasse mon esprit commun et qui mène ce petit État, malheureusement, et je souhaite que ça ne sera jamais le cas, parce que je ne suis pas là pour être alarmiste, à sa destruction. Je cite au début de mon livre un texte de Charles Péguy qui résume l'intégralité de mon travail, sans le savoir. Regardez ce qu'il dit, c'est assez fascinant. Il dit « Une maison ne périt jamais que du dedans. Ce sont les défenseurs du trône et de l'autel qui ont mis le trône par terre et autant qu'ils l'ont pu, l'autel. » Voilà, en gros, hein, c'est cela dont nous sommes victimes actuellement.
Alors, je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, le libre journal d'Arnaud Guyot-Janin, animé aujourd'hui par Denis Sureau. Je reçois Hervé Elie Bokobza. Nous parlons de... Donc, un regard juif, notamment sur la question d'Israël, Israël-Palestine. On a reçu une question un peu spécifique. Un site internet juif orthodoxe rapporte que selon le Talmud de Jérusalem, 40 ans avant la destruction du Second Temple, le rideau du Saint des Saints s'est déchiré et le miracle de la lampe mère de Hanouka ne s'est plus produit. Confirmez-vous ce récit et comment faut-il l'interpréter ? 40 ans avant la destruction du Temple, est-ce que cela coïncidera avec le début de la prééducation du Christ ? Alors, je ne sais pas si vous avez...
Alors, je ne sais pas si ça correspond à la prédication du Christ, mais ça revient un petit peu à ce que j'ai dit. 40 ans avant, il y a eu la fin, le pouvoir était en déclin. Il y a quelque chose de fascinant, c'est que le monde juif... considère qu'à l'époque, il était accompagné par Dieu. Hein, il y a eu les nuées dans le désert, etc. Et qu'il y a eu ce qu'on appelle une éclipse de Dieu, où Dieu ne se manifeste plus. Et pourtant, la foi, il y a un très beau texte de Leibovitch, mais je ne sais pas si je vais le retrouver, qui décrit ça très bien. La foi, elle est restée toujours tenace. Et je pense que peut-être ce texte du Talmud de Jérusalem rejoint ce que j'ai dit par justement la fin du pouvoir politique au sens religieux cette fois-ci, qui a permis de garder fort sa foi, y compris dans les moments les plus terribles, même si on ne vous constate aucune manifestation divine. Voilà en gros ce que je peux dire sur cette question. Si j'arrive à retrouver avant qu'on quitte ce texte de Leibovitch, je vais vous lire parce qu'il est très très beau. Alors, il y avait une autre question, c'est ça ?
Une autre question. Quand un goy émet la moindre critique vis-à-vis d'Israël, d'un juif ou du judaïsme, il est traité d'antisémite. Comment appelle-t-on un juif qui est l'Occident, les Blancs et le christianisme ? Pourquoi aucune loi ne pénalise cela en République, dite française ? Sinon, être juif, c'est avoir la Kedusha, non ? Comme je ne sais pas ce qu'est la Kedusha, j'aimerais que vous sachiez ce que c'est que la Kedusha.
Alors, je vais peut-être d'abord répondre à la première partie. Moi, je ne sais pas ce que c'est que ce concept de dire que quelqu'un qui critique la politique israélienne, c'est un antisémite. Moi, je n'ai pas cette conception. Donc, je ne peux pas répondre à la place de ceux qui ont cette pensée-là. Et qu'à force, c'est ce que je disais au début avec les pièces de monnaie périmées, qu'à force d'utiliser ce terme à tout va, à tort et à travers, on va finir par nier les vrais antisémites. De mon point de vue, moi, je ne fais aucune différence entre un juif et un non-juif. C'est ma règle indépassable, on va dire, dans le discours que chacun peut avoir. Et je pense que dès lors qu'on met en paravent ce genre d'accusations infondées, souvent, on perd complètement la possibilité de dialoguer. Ce qui est pour moi le plus important, c'est créer justement ce pont de dialogue. Et que toute critique de l'État d'Israël n'est même pas, pour moi, anti-sioniste. Parce que le sionisme originel n'interdit pas de défendre en même temps la cause palestinienne. Et on peut dénoncer les guerres qu'il y a eu après le 7 octobre. Moi, je l'ai dit assez rapidement, je comprends qu'Israël a le droit de se défendre. Je comprends que ce qui s'est passé le 7 octobre a été terrible, que c'était un acte terroriste odieux et certainement aussi avec des relents antisémites. Mais la réaction d'Israël a cessé très vite d'être une riposte à ce pogrom, entre guillemets, et est devenue une récupération idéologique, justement, pour fonder ce grand Israël, je le dis avec beaucoup de tristesse, en justifiant, à partir du 7 octobre, la légitimité de ne plus du tout tenir compte de la cause palestinienne. Voilà ce que je dis.
Oui, et de récupérer Gaza.
Voilà, et de récupérer Gaza. Donc il y a ici quelque chose qui est une dérive. Critiquer cela, en tant que juif ou non-juif, ça n'a rien d'antisémite, ça n'a rien d'antisioniste. Parce que si le sionisme, c'est l'existence de l'État d'Israël, là on va à sa destruction. Le problème, c'est que beaucoup n'en ont pas encore conscience. Donc je m'excuse pour ce monsieur, il a peut-être été victime de gens qui lui ont fait ça. Ce n'est pas du tout ma façon de voir les choses.
C'est quoi la Kedusha ?
Alors la Kedusha, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Alors la sanctification, d'un point de vue juif, c'est justement par le respect des commandements. Ça s'explique par le respect des commandements, mais il y a aussi, d'un point de vue mystique, une initiation d'ordre spirituel, ce qu'on appelle la Kavana. Le mot Kavana, c'est un mot que j'aime beaucoup, parce qu'il a beaucoup de sens. La Kavana, ça peut être l'intention, ça peut être la concentration, par exemple, se concentrer au moment de la prière ou au moment de la méditation, pour les athées, par exemple, qui peuvent aussi méditer. Et ça veut dire aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot, ça veut dire aussi la direction, vers quel lieu nous allons. Et c'est ça qui nous sanctifie. Ce qui nous sanctifie, c'est ça. Et le Talmud dit une chose extraordinaire, que lorsque les Juifs ont été exilés en Babylonie, Babylonie est devenue leur terre d'Israël. Et les commentateurs du médiévaux expliquent et disent « Parce que la terre d'Israël, au-delà d'un lieu géographique, c'est le lieu où on se sanctifie pour Dieu, quel que soit l'espace du monde. » Et c'est d'ailleurs ce que dit Jésus dans Jean 4, à la Samaritaine, à propos justement du salut vient des Juifs et de la problématique entre Garizim et Jérusalem. Bon, vous connaissez ce texte par cœur. Voilà.
Alors, sinon, très concrètement, comment vous voyez quelle piste de solution pourrait-on imaginer ? Parce que il y a quelques années, certains défendaient la création d'un État palestinien à côté de l'État d'Israël. On voit mal aujourd'hui, compte tenu de la colonisation, de ce qui se passe à Gaza, de la colonisation de la Cisjordanie, avec le morcellement complet des territoires, est-ce que c'est vraiment une solution ? Est-ce qu'une autre solution serait, à l'intérieur de l'État d'Israël, de pratiquer ce que les catholiques appellent le principe de subsidiarité, et finalement qu'il y ait des régions ayant une certaine autonomie, en respectant évidemment la citoyenneté des Palestiniens ? Je ne sais pas comment vous voyez les choses là.
C'est évident que si je voulais voir les choses sans tenir compte du contexte actuel, je dirais qu'il faut que tout le monde ait les mêmes droits en Israël. Il faut que l'État d'Israël devienne un État vraiment laïque et que le juif se sente, pour le juif pratiquant, dans son lieu de résidence, puisque Israël a toujours été le lieu de résidence du juif, autant que le palestinien ou le chrétien ou le non-juif. Enfin, on peut être chrétien palestinien, mais je veux dire, voilà. Mais si on doit tenir compte du contexte actuel, moi je pense au contraire qu'on est en train de faire fausse route. L'État binational ne fonctionnera pas mieux que l'État actuel, c'est pas vrai, que ce que fait Netanyahou est extrêmement dangereux dans sa proclamation d'une impossibilité presque éternelle, on pourrait dire, mais lui il n'est pas éternel, de créer un État palestinien. Le problème, il est maintenant, aujourd'hui aussi, par rapport à la culture et par rapport à la méfiance. J'aime bien cette phrase d'un grand écrivain, Amos Oz, un grand écrivain israélien, qui disait « Aidez-nous à divorcer ». À un moment donné, parfois, il faut se séparer pour se rejoindre. Et donc, moi, sincèrement, je continue de penser qu'il faut refabriquer les conditions pour qu'il y ait un État palestinien. Parce que c'est le seul gage de sécurité pour l'État d'Israël. En gros, ce que je dis dans mon livre Israël-Palestine, je vais être très court parce que je vois que le temps avance, c'est que tous les pays alentour de l'État d'Israël, je ne dis pas ça d'un point de vue moral, je dis ça d'un point de vue concret, depuis 1948, ont tenté, par tous les moyens possibles, par les armes, de détruire l'État d'Israël. Ils n'y sont pas parvenus, et après la guerre de Kippour, en gros, ils ont cessé toute velléité de vouloir détruire cet État. Qu'est-ce qui a différencié ? C'est quoi ? C'est pas idéologique ? Non. C'est qu'ils se sont rendus compte que l'armée d'Israël étant assez puissante, elle détruit les propres infrastructures des États qui sont autour d'Israël. En gros, je le dis de cette façon-là, j'espère que ça ne choquera personne, ils ont une raison d'être plus importante que celle de vouloir détruire Israël. Donc pour eux, c'est plus important. Les Palestiniens sont les seuls dans la région qui n'ont pas de raison d'exister en tant que peuple plus importante que celle de vouloir détruire Israël. Et il faut leur donner cette raison-là. Et c'est lorsqu'ils auront cette raison-là qu'ils comprendront que toute tentative destructrice à l'égard de l'État d'Israël met en péril leur propre infrastructure. Ce raisonnement que j'ai dit dans Israël-Palestine, pour moi, il reste tout autant valable. Et j'ai peur à terme, peut-être qu'on peut conclure avec ça, j'ai peur à terme que ça ramène en fait la cause palestinienne à des réseaux terroristes comme il y avait avant dans les années 70-80, avec des synagogues qui étaient brûlées, avec des avions qui étaient détournés, avec tout cela. Et on est en train de complètement occulter l'histoire. Donc moi, je pense qu'il faut se battre, les Occidentaux et tous les pays qui ont de la puissance, pour tout faire, pour recréer les conditions d'une possibilité qu'il y ait un État palestinien viable. Et je compare le conflit israélo-palestinien à une transplantation cardiaque. Imaginez un médecin, il faut par exemple 12 heures pour faire cette opération, 6 heures pour enlever le cœur et 6 heures pour le remettre. Et qu'une fois qu'il a enlevé le cœur, sa femme l'appelle au téléphone, il dit « Écoute, je t'attends pour dîner, ça fait plusieurs heures que je t'attends. » Il raccroche le téléphone et il dit au corps médical « Vous ne trouvez pas que j'en ai assez fait ?» Et il s'en va. S'il n'a pas remis le cœur, l'autre, il va mourir. Le problème, c'est qu'il faut cesser d'imaginer qu'il faut construire cette paix avec des étapes. Il faut que ça soit en une seule et unique étape. Point à la ligne. C'est fait et c'est bon.
Voilà. Merci Hervé Libokobza pour votre analyse qui dépote un peu,
j'espère avoir blessé personne. Voilà, c'est pas le but.
Qui change en tout cas beaucoup des discours convenus sur ces questions d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Donc, je rappelle que vous avez écouté le libre journal d'Arnaud Guyot-Jeannin, qui a été empêché aujourd'hui d'être présent. Et donc, c'est votre serviteur Denis Sureau qui a assuré l'animation de cette émission. Nous avons reçu Hervé Libokobza, donc qui est l'auteur de nombreux livres, donc notamment Israël-Palestine, La paix à la lumière de la Torah, qui est paru en 2008, ou également un autre livre, De la violence juive
approche. 2018.
2018. Et de la violence juive, donc, approche textuelle.
Et Jésus,
un très beau livre, Jésus et le messianisme à la lumière de la Torah, qui est paru chez Parole et Silence. Un livre où vous ferez certainement bien des découvertes, que vous soyez chrétien ou juif. Voilà, merci chers auditeurs, je vous souhaite une...
Alors je remercie moi aussi les auditeurs de Radio Courtoisie, je vous remercie aussi pour cet accueil, et on s'excuse pour les questions qui sont restées en suspens. Voilà.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Arnaud Guyot-Janin, dirigé aujourd'hui par Denis Sureau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 19 février 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.